m'entendez? Oui, je crois. Moi aussi, je m'entends. Bonjour à tous. C'est par une petite question que je vais commencer ce temps de partage. Si vous saviez aujourd'hui ce que demain vous réserve, comment vivrez-vous le présent? Est-ce que vous le vivrez différemment? Peut-être vous direz que je vais saisir l'instant présent. J'en profiterai à chaque instant au maximum et j'essaierai de vivre à chaque jour comme si c'était le dernier. Je passerai plus de temps avec mes proches et je leur ferai savoir combien je les aime. Je voyagerai dans ces endroits que j'ai toujours rêvé faire et je ferai tout ce que j'ai, tout ce qui me rend heureux. Peut-être vous direz que je vais me concentrer sur mes objectifs à long terme. Je travaillerai encore plus dur pour atteindre mes objectifs, sachant que j'ai un avenir certain. J'investirai mon avenir dans mon travail. Je prendrai des décisions financières judicieuses. Je mettrai de l'argent de côté. J'essaierai de laisser un impact positif par mon travail dans ce monde et puis pour mes enfants. Peut-être vous direz que je vais me consacrer à autre chose. J'aiderai les autres pour contribuer à un monde meilleur. J'investirai mon temps pour aider les autres. J'investirai mon argent pour des œuvres qui me tiennent vraiment à cœur. Je répandrai, comme on dit souvent, la positivité et l'espoir dans ce monde. Peut-être vous vous dites aussi que je vivrai avec moins de soucis. Je me détendrai et je profiterai de la vie, sachant que je n'ai pas à me soucier de l'avenir. Je ne passerai pas mon temps à m'inquiéter des choses que je ne peux pas contrôler. Je serai reconnaissant pour tout ce que j'ai et je ne les prendrai pas pour acquis. Ou peut-être vous dites, je changerai de cap. Si je n'aime pas ce que l'avenir me réserve, j'essaierai de le changer. Je ferai des choix différents dans ma vie pour avoir un avenir plus souhaitable. Je vivrai ma vie sans regret et je m'assurerai de vivre la vie que j'ai vraiment voulu vivre. Et vous voyez la liste des choses à faire, si on connaissait l'avenir, est infinie, car elle dépend de notre personnalité, elle dépend de nos valeurs et de nos croyances. Savez-vous que la parole de Dieu nous donne une indication claire sur notre avenir? Elle nous dit qu'un jour, nous serons tous jugés par Dieu. Et le livre de Sophonie nous en parle. Et je vous propose ce matin de continuer la lecture du livre de Sophonie avec le deuxième message de la série de trois messages que j'avais préparé. J'en ai fait déjà un et là nous sommes au deuxième et qui nous parle du jour du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir ce que le prophète Sophonie nous dit sur le jour du Seigneur. Comment décrit-il ce jour, le jour du Seigneur? Y a-t-il une échappatoire au jugement de Dieu? Si oui, quelle est-elle?
De qui recherchez-vous les coordonnées?
Ah, même mon Siri s'y met. Vous l'avez entendu? Ah ben voilà, je ne sais pas ce qu'il me fait. Deux secondes, je l'ai perdu. Et il va revenir. Et il ne faut surtout pas que je dise cette question-là, parce que Siri me répond. Alors, excusez-moi, j'espère qu'il ne va pas me faire ça tout le temps. Alors, la question c'est comment décrire le jour du Seigneur? Et y a-t-il une échappatoire au jugement de Dieu? Si oui, je ne le dis pas parce que Siri va me répondre. Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles Et nous allons lire ensemble Sophonie du chapitre 1. Et nous prendrons donc à partir du verset 7 jusqu'au chapitre 2, au verset 3. Sophonie, c'est un texte, c'est un livre de l'Ancien Testament. Et nous lirons donc Sophonie 1 du verset 7 au verset chapitre 2, verset 3. Commençons par un petit rappel sur le message, le premier message de la série de Sophonie, où nous avons lu de 1 à 6. Dans ce passage, il était question du jugement de Dieu contre la terre, contre le royaume de Juda et de Jérusalem. Et nous avons vu que le jugement de Dieu est inévitable. C'est un jugement qui est compréhensible et qu'il y a dans ce jugement un message extraordinaire d'espoir. La suite de la prophétie de Sophonie continue au verset 7, et que je vous invite à lire aussi dans vos Bibles. Il dit ceci: « Faites silence devant le Seigneur. » On peut parfois en douter, même sans moquer, mais une chose est certaine, c'est que, et certaine évidente, c'est que c'est ce que nous dit ce verset, le jour où il interviendra est proche. L'évidence est qu'il n'a jamais été aussi proche qu'hier. La prophétie de Sophonie au verset 7 nous met tout de suite dans la solennité de ce jour. Silence devant Dieu, le Seigneur. Sophonie commence par un commandement à se taire, à faire silence devant le Seigneur. C'est un appel solennel. Généralement, nous finissons par faire silence devant des personnes que nous respectons, devant des personnes qui nous impressionnent ou que nous admirons, comme un président, comme un roi. Et cet appel au silence devant l'Éternel invite à la révérence, à la reconnaissance de l'autorité de Dieu. L'appel à faire silence devant Dieu, le Seigneur, est aussi un appel à écouter Dieu, le Dieu puissant, le Dieu souverain, le Dieu d'amour et de miséricorde. Un appel à écouter celui qui a créé les cieux et la terre, chaque créature, les plantes et l'homme. C'est ce qui nous est marqué dans Genèse 2. Un appel à écouter celui qui a fait alliance et des promesses au peuple de Dieu. C'est l'alliance avec Noé que nous avons dans Genèse, l'alliance avec Abraham et qui est mentionnée dans Exode. Un appel à écouter celui qui est saint. Lévitique nous en parle. C'est devant ce Dieu-là que Sophonie nous invite à se taire, à nous taire. Pour quelles raisons devons-nous faire silence devant ce Dieu ? La suite du verset de Sophonie nous donne une indication. Car le jour où il interviendra est proche. Le Seigneur a préparé un sacrifice, il a déjà purifié ses invités. Le jour où il interviendra est proche. Ce jour est appelé dans certaines versions, si vous lisez dans votre Bible, il est appelé le jour du Seigneur. Le conscient collectif, le jour du Seigneur, est un peu inquiétant. Même aujourd'hui, pour nous, quand on l'associe au jugement de Dieu. Dans ce texte-là, ce jour du Seigneur, c'est inquiétant pour eux. Même aujourd'hui, pour nous, ce jour est inquiétant lorsqu'on l'associe au jugement de Dieu. Et savez-vous pourquoi? Et d'où vient l'expression « le jour du Seigneur » ? Pour comprendre cette expression, remontons un tout petit peu au début de l'histoire d'Israël, à qui Dieu a promis une terre. Et pour arriver à cette terre promise, le peuple de Dieu a dû surmonter des obstacles, a dû mener des batailles contre beaucoup d'éléments qu'ils n'auraient jamais pu gagner par eux-mêmes. Rappelez-vous quand Josué a mené la bataille de Jéricho. Pensez-vous que Josué était un grand général d'armée ou qu'Israël avait une armée très grande? Évidemment non. La Bible nous indique clairement que Dieu menait le combat et il gagnait les batailles pour son peuple. Dieu menait le combat pour son peuple, parfois à coups de tonnerre, parfois avec des tremblements de terre, parfois avec en créant la panique dans le camp adverse. Le peuple de Dieu savait très bien qu'il n'avait pas mené lui-même le combat et que le combat était mené et gagné par Dieu, par l'Éternel, et non pas par eux. Et de ces événements, le peuple de Dieu a commencé à appeler le jour de ses victoires, ou le jour où Dieu menait le combat pour eux, il commençait à l'appeler le jour du Seigneur, parce que Dieu a vaincu l'ennemi, leur ennemi ce jour-là. Et quand le peuple de Dieu a commencé à se détourner de Dieu, les prophètes ont transformé cette expression « jour du Seigneur » en un avertissement. Comme pour dire au peuple de Dieu, « Attention les gars, à cause de vos péchés et du fait que de la sainteté de Dieu, si vous ne revenez pas à Dieu, un jour comme le jour du Seigneur, Dieu vous détruira, comme il a détruit les peuples ennemis. » Ainsi, l'expression « le jour du Seigneur » a pris un sens inquiétant. Et en ce jour qui est proche, c'est le Seigneur même qui mènera le combat, exactement comme le jour il menait le combat pour son peuple. Permettez-moi de vous poser encore quelques questions. Direz-vous que le Seigneur mène des combats et remporte des victoires pour vous? Comptez-vous sur Dieu pour mener les combats dans votre vie? En tout cas, la suite de la prophétie de Sophonie nous encourage à nous mettre sous la protection de Dieu, car le jour du Seigneur sera dévastateur. C'est ce que nous lisons dans Sophonie du verset 8 à 18. Je vous invite à le lire dans vos versions aussi avec nous. Au jour du Seigneur, au jour de ce sacrifice, dit le Seigneur, je punirai les chefs de les fils du roi et tous ceux qui suivent une mode étrangère. Ce jour-là, je punirai tous ceux qui sautent comme des païens par-dessus le seuil du temple, tous ceux qui remplissent la maison de leur maître de richesses acquises par la fraude et la violence. Ce jour-là, Jérusalem affirme le Seigneur, on entendra des grands cris à la porte des poissons, des lamentations dans le quartier neuf et un énorme fracas sur les collines. Poussez des hurlements habitants de la ville de Bas, car tous les marchands vont mourir, tous les commerçants vont être exterminés. À ce moment-là, je prendrai une lampe, je fouillerai la ville de Jérusalem, je sévirai contre les hommes qui vivent tranquilles comme le vin laissant déposer sa lie. Ils disent, le Seigneur ne peut rien, ni en bien, ni en mal. Eh bien, leurs richesses seront pillées et leurs maisons détruites. Ils construisent des maisons, mais ils ne les habiteront pas. Ils plantent des vignes, mais ils n'en boiront pas le vin. Le grand jour du Seigneur approche. Il arrive en toute hâte. Sa venue provoquera des cris de désespoir. Même les plus courageux appelleront au secours. Ce jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, de ruine et de désolation, ce sera un jour d'obscurité profonde, envahi de nuages et de brouillard. Ce jour-là, on entendra les soldats sonner de la trompette et pousser des cris de guerre contre les villes fortifiées et leurs hautes tours. Je plongerai les hommes dans le malheur, dit le Seigneur. Ils tâtonneront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre moi. Leur sang sera répandu partout, comme de la poussière, et les cadavres pourriront comme des ordures. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur du Seigneur. La terre entière sera détruite par le feu de son courroux. Oui, ce sera terrible. Il va exterminer tous les habitants de la terre. Je remets le texte entier en plus petit ici. Une petite chose, une première chose en tout cas que l'on ressent à la lecture de ces versets de 8 à 18, c'est que le jour du Seigneur sera un jour horrible, terrible. C'est un jour de colère, colère de Dieu, un jour de détresse, d'angoisse, un jour de ruine, de destruction, un jour de tristesse, de guerre contre toutes nos constructions humaines qu'on considère la plus forte. C'est vrai, on n'aime pas parler de ça. Nous pouvons voir dans ces versets quatre groupes de personnes que le Seigneur punira. En premier, les chefs, les fils du roi et tous ceux qui suivent des modes, une mode étrangère, nous dit le verset 8. En deuxième, selon ce texte, c'est ceux qui sautent par-dessus le seuil, les violents, les fraudeurs dans la maison du maître. C'est ce que nous renvoie le verset 9. Il s'agit là des serviteurs du roi, des gens qui pensent se rendre agréables au roi en lui procurant par la violence des trésors volés au peuple. Le troisième groupe sont des personnes complaisantes. C'est ce que nous renvoie le verset 12. Il s'agirait là des personnes qui n'ont aucun respect pour les règles morales et religieuses et qui ne pensent qu'au plaisir et à être agréables. Le quatrième groupe, c'est toute la terre, nous dit ce texte, et c'est ce qui ressort du verset 18, sera détruit par le feu, la terre sera détruite par le feu de son courroux. Car tous les hommes ont péché contre le Seigneur. Romains 3, verset 23, reprend cette idée que Romains que nous avons étudiée dans notre groupe de maison, de quartier, reprend cette pensée en disant « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » On peut se demander quels sont aujourd'hui, pour nous, l'équivalent de ces quatre groupes de personnes que le Seigneur punira. Le premier groupe fait référence aux chefs et fils de roi. Il pourrait s'agir aujourd'hui de nos gouvernements, de nos dirigeants. Il pourrait aussi s'agir aujourd'hui de ceux qui ont en charge l'enseignement de la parole de Dieu. Il pourrait aussi s'agir de ceux qui font un mélange de croyances, c'est-à-dire une forme de syncrétisme, qui correspond dans ce texte à ceux qui suivent une mode étrangère. Le deuxième groupe de personnes pourrait aujourd'hui faire référence aux personnes qui se livrent à de l'idolâtrie, à de la violence et de la fraude. Êtes-vous de cela? Êtes-vous prompt à la violence et à la tromperie? Derrière tromperie, fraude, ce mot englobe ici le mensonge, l'exagération, la dissimulation, la manipulation, le vol, le détournement de fonds, les fraudes à l'assurance, la fraude fiscale. Êtes-vous prompt à la violence? Comprenez derrière ce mot violence l'agression physique, coups et blessures, les violences sexuelles, le harcèlement, la discrimination, les discours de haine, la violence domestique, la négligence, et j'en passe. Le troisième groupe de personnes aujourd'hui peut correspondre aux personnes qui ne tiennent pas compte de Dieu dans leur vie quotidienne. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas et comme si Dieu ne faisait rien. Vivez-vous comme si Dieu n'existait pas? Votre vie en Christ est-elle la même du lundi au dimanche ou est-elle différente que le dimanche, voire le samedi et dimanche? Le dernier groupe, toute la terre correspond à l'homme et son péché. Le péché est clairement dans notre monde aujourd'hui. Il suffit d'aller sur un média, peu importe le média, pour s'en rendre compte. Partout autour de nous, dans nos vies quotidiennes, dans notre relation, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, même dans nos divertissements, nous constatons que le monde est brisé. Et cette brisure se retrouve également même dans nos églises. Dieu est juste. Il se doit de punir le péché. Et la bonne nouvelle, c'est que ce jour-là, ce jour terrible, Dieu sera à l'œuvre. Nous pouvons être délivrés ce jour-là en cherchant maintenant et humblement le Seigneur. Et c'est ce qui nous renvoie le verset 1 à 3 du chapitre 2 et que nous allons lire tout à l'heure. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour, un Dieu de justice et de miséricorde. Il est toujours prêt à pardonner tous ceux qui se répandent. Dieu nous offre encore aujourd'hui la possibilité de se renouveler et de renaître. Ce message est toujours d'actualité aujourd'hui. Dieu nous rappelle encore que nous sommes tous pécheurs et que nous devons nous repentir de nos péchés. La repentance, nous la définissons souvent comme faire demi-tour et revenir à Dieu. Et c'est exact. Pour revoir cette définition de façon un tout petit peu différente, quelque chose que j'avais fait dans mon groupe de maison, permettez-moi d'emprunter une petite image du code de la route pour définir la repentance par son contraire. Si je vous montre cette image-là, du code de la route, ça vous dit quoi ? Ce panneau-là. C'est quoi ? On ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus faire demi-tour. Évidemment, un panneau rond sur un fond blanc bordé d'un listel rouge avec en son centre une flèche courbée barrée d'un trait rouge signifie qu'il est interdit de faire demi-tour sur la route que vous suivez. L'image contraire de ce panneau n'est pas dans le code de la route humaine, mais pour moi, c'est une bonne illustration de la repentance. C'est le contraire de ce panneau, pour moi, qui illustre bien la notion de repentance. Une définition que j'aime bien est celle que j'ai empruntée à Demos et Grissom dans le livre « Retrouver Dieu », qui dit « La repentance est un changement d'attitude de cœur qui conduit à un changement de comportement. » Regardez bien cette flèche de repentance là, qui est en dessous de la définition du changement d'attitude du cœur qui conduit à un changement de comportement. Est-ce que vous voyez une différence particulière, quelque chose de particulier dans cette flèche noire ? Vous me direz non. Et pourtant, si. Il y a quelque chose de particulier là-dedans. Et ce qu'il y a de particulier là-dedans, vous pouvez le voir que quand je vous la montre comme ceci, cette repentance-là, elle est faite, cette flèche-là, elle est faite de plusieurs petites flèches de repentance, mais qui sont sur fond, que vous ne pouvez voir que lorsque je le mets sur fond blanc. Tout cela pour nous illustrer que la repentance, pour le chrétien, c'est une action continuelle, et non pas un retour, quelque chose que je dois faire continuellement, quand le Saint-Esprit ou la parole me pointe quelque chose dans ma vie, et qui n'honore pas Dieu. Je me dois de l'écouter et de revenir à Dieu et que cela provoque un changement de cœur, un changement en moi. Et la repentance, ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois lorsqu'on se fait baptiser, mais c'est quelque chose de continuel. Et que quand l'Esprit Saint vous montre quelque chose dans votre vie, revenez au Seigneur et demandez-lui pardon. Dieu nous offre la promesse du pardon et la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ce qui est formidable dans cette fin terrible annoncée que Sophonie nous dit, il nous laisse entrevoir un avenir meilleur pour le peuple de Dieu et pour chacun de nous au travers du règne de justice du Messie Jésus-Christ. Regardons ensemble ce que nous dit les trois premiers versets de Sophonie, du verset 1 à 3. Prenez la peine de réfléchir. Ressaisissez-vous, gens dépourvus de honte, avant que vous ne deveniez comme les brins de paille dispersés un jour, avant que l'ardente colère du Seigneur ne vous atteigne, avant que ne vienne le jour où elle se déchaînera. Tournez-vous vers le Seigneur, vous, tous les hommes du pays, et qui obéissez à ses commandements. Pratiquez la justice. Restez humbles devant Dieu. Vous serez peut-être épargnés au jour de la colère de Dieu. Ces versets nous invitent à se donner la peine de réfléchir, à se ressaisir avant que nous ne devenions comme des brins de paille dispersés le jour de la colère du Seigneur. Oui, Christ, notre espoir est certain. Chercher et vivre avec le Seigneur de tout notre cœur, c'est se mettre à l'abri, c'est se mettre sous la protection du Seigneur, du Seigneur ce jour-là. Imaginez un ciel sombre, soudainement, un silence pesant qui s'installe et une voix rugissante qui résonne. Le jour du Seigneur est là. Puis la terre qui tremble, les montagnes s'écroulent et tout ce qui est faux se consume par les flammes. Et au milieu de ce chaos, une lumière jaillit, l'espérance de Christ. Pour ceux qui ont suivi fidèlement Christ, ce jour n'est pas une terreur, mais un moment de triomphe. Ce jour, c'est le jour où ils seront libérés de la souffrance et accueillis dans la gloire éternelle. Aujourd'hui, il se pose à nous, à vous, comme à moi, à nous tous, une question cruciale. De quel côté serez-vous le jour du Seigneur? Serez-vous parmi ceux qui tremblent de peur ou parmi ceux qui lèvent la tête avec confiance, sachant qu'ils ont leur récompense auprès de Dieu? Ne laissez pas passer ce jour sans y penser. Repentez-vous aujourd'hui de vos péchés. Tournez-vous vers Dieu de tout votre cœur et vivez chaque jour dans la présence de Christ comme si c'était le dernier jour. Et je crois que c'est le seul moyen d'être certain que le Seigneur, lorsqu'il viendra, il vous trouvera prêt et vous accueillera dans son royaume éternel. En guise de conclusion, n'attendez pas pour changer. Commencez dès aujourd'hui à vivre pour lui ou à continuer à vivre pour lui et l'espérance de ce jour du Seigneur deviendra votre réalité. Je vous invite à prier. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole puissante et pour le message d'espoir que tu nous a donné, que tu nous donnes au travers du livre de Sophonie. Nous reconnaissons nos péchés, que ce soit seul ou ensemble, nous reconnaissons avoir mal agi devant toi. Nous t'avons toujours pas écouté, Seigneur. Nous avons manqué de justice, d'amour, et nous avons des fois douté de ton amour pour nous. Et nous te demandons pardon pour les fois où nous t'avons tourné aussi le dos. Oui, Père, ensemble, nous voulons te confesser notre besoin de ton amour et de ta miséricorde. Aide-nous, Père, à nous tourner vers toi de tout notre cœur, à chercher ta justice et à vivre dans l'attente de ton royaume. Apprends-nous à vivre en attendant ton retour, et cela sans peur, mais avec espoir. Oui, Père, prépare-nous à te rencontrer avec un cœur pur et une vie nouvelle. Oui, Seigneur, en ce jour particulier pour notre pays, Père, je veux aussi te prier pour la France, Seigneur. Je te prie de regarder ton pays avec compassion, de guider ses habitants sur le chemin de la justice, de la paix et de l'unité, Seigneur. Oui, Père, je veux aussi te intercéder, prier ce matin encore pour ceux d'entre nous qui passent par la tristesse ou qui sont dans la joie. Je te prie, Père, de te manifester fortement, de manifester fortement, Seigneur, ta présence à leur côté, ta présence dans ce qu'ils vivent, Seigneur. Que ta grâce et ta paix abondent dans nos vies, aujourd'hui et pour toujours. Et nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, ô Dieu notre Père. Amen.
On va chanter un dernier chant pour la durée des temps. Voilà. On a cette espérance du jour du Seigneur qui place un